Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Salut à tous, de retour pour notre rendez-vous journalier consacré au preview de la draft, en fonction de chacune des équipes, consacrée à chaque équipe de la Ligue. Je vais y arriver. Un jour, une franchise. Aujourd'hui, on prend la direction de la NFC Sud pour aborder les New Orleans Saints, désormais orphelins de Drew Brees et d'un salary cap, avec désormais un salary cap un petit peu juste, où les choix de la draft vont être extrêmement précieux. Enfin, en même temps, je parle du salary cap, mais tous les ans, on dit ça pour les Saints, hein, Drew Brees ou pas Drew Brees. Donc, ça va pas changer en 2021, très clairement, mais en tout cas, il va y avoir des sélections importantes lors de la draft pour repartir donc sur ce nouveau cycle du côté de la Louisiane et pour en parler avec moi, comme quasiment tous les jours ces derniers temps, Alexandre Locke. Salut Alex.
Bonjour Grégory, bonjour à tous.
Alors les Saints, donc, le disaient, chantier assez intéressant parce que forcément le salary cap en l'occurrence a été géré correctement comme chaque année par Mikey Loomis. Par contre, il a quand même fallu faire des concessions, couper des joueurs un petit peu au dernier moment qu'on ne pouvait plus se permettre de payer, et du coup il y a quand même des postes qui vont être assez importants à considérer. Et en l'occurrence, sur les besoins tout d'abord de la Nouvelle-Orléans, on a été relativement en symbiose, je dirais, avec notamment des besoins plutôt axés sur l'extérieur.
Et oui, les Saints ont été obligés de faire le ménage, tu l'as dit, et notamment au poste de corner. Ils ont dit au revoir à Janoris Jenkins. Donc, il est vrai qu'il va falloir renforcer cette couverture. Alors, par un phénomène que j'ai pas réussi à expliquer, ils ont conservé leur safety, ils ont réussi à taguer leur safety malgré l'absence totale de salary cap. Donc tant mieux pour eux, ça leur évite de devoir complètement refaire le backfield. Aujourd'hui, ils ont Garner Johnson qu'ils ont sélectionné, je sais plus si c'était l'année dernière ou
il y a deux ans.
Donc qui, je pense, n'est pas vraiment un corner extérieur, ne peut pas être la solution à long terme. Donc, ils vont avoir besoin de regarder de ce côté-là pour trouver un pendant à Latimore. Voilà, après…
qui est lui-même agent libre l'année prochaine.
Ouais, à voir si justement, ils trouveront un nouvel artifice pour arriver à le prolonger, mais effectivement. Donc, c'est vraiment un poste à considérer s'ils veulent pas se faire… se faire secouer par l'attaque des Bucks qui est assez explosive, et celle des Falcons toujours dans leur division qui est pas non plus loin d'être mauvaise. Donc il va falloir quand même travailler là-dessus.
Et plutôt, alors on avait ciblé également un receveur, je parlais des extérieurs, il a fallu se séparer d'Emmanuel Sanders. Alors on sait que c'est pas non plus un souci, hein. Sean Payton est capable de développer des receveurs relativement bas, mais faut pas non plus oublier, alors je sais pas, peut-être que c'est peut-être exagéré, mais alors je parlerai même des cibles en règle générale, parce que sur le poste de tight end, ils ont perdu Jared Cook. Ils se retrouvent uniquement, il me semble, avec Adam Trautman qu'ils ont drafté l'année dernière. Et Garrett Griffin, ça fait un petit peu léger en l'occurrence. Et puis oui, sur le poste de receveur, on n'est pas à l'abri d'une nouvelle facétie de Michael Thomas, qui a quand même eu, alors qui déjà a connu pas mal de blessures et qui, on rappelle, s'est quand même brouillé avec certains joueurs de son effectif. Donc, on n'est pas à l'abri d'une jurisprudence Antonio Brown où du jour au lendemain, ça commence un petit peu à chauffer en interne et où on pourrait éventuellement s'en débarrasser. C'est peut-être là aussi, surtout qu'il coûte cher, il va commencer à coûter cher.
Après, il vivra peut-être mal de plus avoir Brise pour lui donner 40 ballons par match aussi.
C'est une possibilité, en effet. Et du coup, ouais, corner et receveur, ça peut devenir un besoin assez prégnant. Tout comme Tiden, comme je disais, et puis peut-être également le front seven.
Ils ont perdu du lourd quand même au milieu de la ligne avec les départs de Rankins et Brown, je crois.
Ils ont réussi à récupérer un trade un petit peu inespéré parce qu'il était parti pour être cuté, mais très clairement, oui, c'est sûr que les départs de Brown et de Rankins, même s'il me semble que Chai Tuttle faisait quand même le boulot dans la rotation, est-ce que ça fait vraiment un titulaire d'impact, j'en suis pas persuadé. Et puis oui, sur le poste de linebacker, il a fallu se séparer de Quan Alexander. Alexandre Zalone, a priori, c'est pas celui qui coûterait le plus cher éventuellement pour être signé, mais il y a beaucoup d'incertitudes là-dessus à l'instant où on enregistre cette émission. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a quand même un front seven où il va falloir être assez actif, notamment sur le poste de middle linebacker, hein, parce que je parlais de deuxième rideau. C'est pas vraiment le profil de DeMario Davis ou de Zach Bone, par exemple, pour reprendre ces deux caractéristiques. Mm. Si on prend maintenant les joueurs qui pourraient fitter correctement, alors on avait les mêmes besoins, pas forcément dans le même ordre. Je sais que tu étais parti plutôt sur un receveur en premier choix et sur un joueur que je vois totalement du côté de la Nouvelle-Orléans, oui. En l'occurrence, c'est Kadarius Toney.
Ben oui, c'est ça. En fait, bon, je suis un petit peu schizophrène parce que je dis qu'il faut un corner et je choisis un receveur. Mais si tu veux, c'est effectivement Kadarius Toney, c'est le profil hyper explosif qui pourrait s'intégrer vraiment parfaitement dans l'attaque de Payton. Cette attaque, voilà, qui se veut hyper créative, hyper originale, complémentaire de par son profil à Michael Thomas. Solution certainement, comment dire. Facile à trouver pour les deux joueurs qui vont se disputer le poste de titulaire, le poste de quarterback titulaire, je vais y arriver. Donc c'est vraiment, ça semble couler de source, Toney. Après, encore une fois, peut-être qu'ils vont vouloir repartir leur construction, leur nouveau cycle sur la défense, mais moi c'est vraiment le joueur, je le vois vraiment bien à New Orleans.
Alors, on parle de Toney, Rondale Moore, ça peut aussi être un choix qu'apprécierait Payton, non?
Ouais, clairement, Rondale Moore. Moi, j'aime beaucoup Rondale Moore. Hier ou avant-hier, son pro day, il a été plutôt pas mal. Mm-hmm. Maintenant, il y a ce red flag, comme on dit, sur son historique de blessure. Est-ce que ça va pas le desservir et l'empêchera pas d'être un premier tour? Je sais pas. Moi, je suis toujours un peu frileux avec il y a beaucoup, beaucoup d'exemples de joueurs très talentueux qui sont descendus à cause de pépins physiques. Là, il a quand même un historique chargé. Donc, par contre, après, clairement, il correspond. C'est à peu près le même style, un peu de joueur. Moi, je le vois plus loin. Je le vois plus loin.
Ouais, très clairement. Alors, moi, j'étais plutôt parti sur un receveur plutôt au deuxième tour. Donc, comme je disais, j'avais plutôt misé sur un Amon-Ra St. Brown. Qui a un profil un peu moins flashy que certains joueurs hyper physiques ou hyper athlétiques. Mais justement, il y a ce dosage que je trouve extrêmement intéressant. Et surtout, c'est un joueur qui a déjà évolué dans une attaque qui était extrêmement verticale du côté du USC. Donc, en l'occurrence, il peut également rester la menace profonde que représentait Emmanuel Sanders. Il y a des similitudes, je trouve, dans les deux profils. Et très clairement, c'est un joueur qui peut être extrêmement clutch, qui a des bonnes mains, qui peut faire qui peut faire pas mal de choses, qui va pas se gêner pour être présent sur le bloc également, sachant qu'on va continuer, je pense, d'appuyer un peu plus sur Alvin Kamara au niveau du jeu au sol. Donc très franchement, c'est un joueur qui, je trouve, aurait sans doute la mentalité pour évoluer du côté des Saints, si bien sûr la Nouvelle-Orléans ne privilégie pas le poste de receveur dès le début de la draft. Le poste de corner, en l'occurrence, je vais juste commencer à développer sur le poste de corner parce que du coup, je l'avais plutôt au premier tour. J'ironisais il y a quelques jours avec Jean-Michel sur le fait que j'adorais Asante Samuel Jr. et qu'à tous les coups, il finirait dans une équipe rivale d'NFC Sud. Là, c'est pareil, du côté de la Nouvelle-Orléans, dans le genre petit pitbull, capable de se faire respecter un petit peu, capable d'être intimidant dans les défenses qu'aime bien mettre en place Sean Payton et son coaching staff. Je pense qu'Asante Samuel Jr., ça peut être une bonne pioche pour les Saints.
Ouais, clairement. Alors, lui, pour moi, c'est quand même un peu une énigme par rapport à son draft stock, comme on dit, parce que je le vois bouger entre 20 et 50, voire 60 parfois.
C'est ça.
Donc, je sais pas trop quoi en penser. On sait que toutes les franchises ont des boards très différents, mais je pense que c'est un. Alors, est-ce qu'il jouit pas un peu de la réputation de son père pour être dans son processus? Je sais pas. C'est vraiment un joueur qui devrait quand même arriver à s'imposer très rapidement et facilement. Ça, on le sait. La taille, c'est plus un handicap pour les corners. Il y a plein d'exemples dans la ligue. Ça peut être une option. Alors, est-ce que 28, c'est peut-être pas un peu haut? Je sais pas. Les Saints, pareil, ils savent bouger. Donc, est-ce qu'ils vont monter pour prendre quelqu'un d'autre qui visent ou est-ce qu'ils vont descendre? Je sais pas, mais bon, Samuel, ça peut être une option.
J'avoue à choisir, sachant qu'ils ont plus besoin, à mon sens, de rotation, je les vois plus descendre.
Oui, c'est. Bah, là, ils se sont quand même pas mal déplumés. Donc, effectivement, il va falloir, comme ils peuvent en théorie pas vraiment se renforcer par des agents libres, il va falloir effectivement trouver des joueurs par ce biais-là. Donc, ouais, peut-être que s'ils reculent, il y a beaucoup d'équipes quand même qui aiment bien remonter au premier tour. On sait que sélectionner au premier tour, c'est aussi avoir une option de cinquième année sur les joueurs. Donc, à partir de 33 jusqu'à 38, 39, il y a peut-être des équipes qui vont vouloir, pour pas trop cher, pouvoir revenir au premier tour. Effectivement, les Saints pourraient gagner un troisième, un quatrième tour, peut-être un quatrième, un cinquième. Donc, ça peut les intéresser. S'ils ont confiance dans leur, dans leur scouting aussi, hein.
Oui, c'est sûr. En profil intéressant pour les Saints, t'avais également Tyson Campbell de Georgia.
Ouais, Tyson Campbell, je pense que fin de second tour, ça peut être une bonne option. Il a vraiment des dimensions, pour le coup, lui, du corner qu'on idéalise un petit peu. Il doit faire dans la 1m86 ou quelque chose comme ça, peut-être même un peu plus. C'est un bon joueur qui est physique, qui est plutôt bon en couverture. Après, il a aussi l'expérience, de son expérience à Georgia, l'habitude de jouer quand même contre du top niveau. À voir si ça peut correspondre à ce que recherchent les Saints. S'ils font du poste pour poste par rapport à Jenkins, je pense qu'ils seraient plus intéressés par un profil à la Samuel.
Oui, c'est aussi dans cet esprit-là, que je le voyais, mais oui, Tyson Campbell, en l'occurrence, on l'avait dit notamment dans la preview cornerback, c'est sûr que il y a un potentiel qui est présent, il y a une progression qui a l'air assez notable. Bon, Dennis Allen a l'air quand même d'être capable de développer notamment ses défenseurs, surtout au sein du backfield, je trouve. Donc ça peut en tout cas être un bon numéro 2, capable d'avoir plus de responsabilités dès 2022. Donc ça peut se tenter en l'occurrence. Sur les deux autres choix qu'on avait, parce qu'en l'occurrence, il y a deux troisième tours du côté des Saints. On a perdu du monde lors d'un free agency, mais en tout cas, on a des choix relativement hauts pour permettre de reconstruire assez rapidement malgré ça, ou en tout cas conserver une ossature suffisante, hein, parce que reconstruire, faut peut-être pas exagérer. Alors, il y avait deux joueurs que j'avais cités, tu avais l'air assez d'accord là-dessus. J'étais parti sur Marvin Wilson, defensive tackle de Florida State, pour renforcer l'intérieur de la ligne. Un profil, je trouve, qui colle parfaitement à ce que faisait Malcolm Brown.
Ouais. Exactement. Ils vont avoir besoin de se renforcer. On l'a dit, ils ont perdu deux éléments très importants sur la ligne. Marvin Wilson, c'est un très gros talent. C'était un très gros talent. Et pour le coup, il s'est un peu perdu cette année, mais je pense que le potentiel est toujours là. Il a cette dimension physique que peuvent rechercher les Saints sur leur ligne. Donc, c'est en fin de troisième tour. Il n'y a pas tellement de risques à partir sur un joueur comme ça.
Ouais. Et puis le deuxième joueur sur lequel on était parti, c'était donc le fameux tight end, une autre cible pour Taysom Hill ou pour Jameis Winston, c'est Hunter Long, tight end de Boston College, qui a crevé l'écran cette année pour composer en tout cas un bon doublon avec Adam Trautman. C'est-à-dire à peu près les mêmes caractéristiques, je trouve, c'est-à-dire efficace au bloc et qui progresse de plus en plus dans le domaine aérien.
Oui, clairement, il est. Ça peut être une vraie bonne alternative. Là aussi, c'est toujours pareil. Hein. Il va falloir faire un peu du poste pour poste à la draft, avec prendre la liste des noms qu'ils ont perdus et aller chercher un remplaçant. Et Hunter Long, oui, dans le style, j'allais dire dans le style Jared Cook, d'une certaine manière. Il est intéressant. Je suis pas certain qu'ils aient pas besoin d'aller monter un petit peu plus haut pour aller le chercher. Parce que fin de troisième tour, ça va peut-être être un peu juste, parce que sa cote monte. Effectivement, tu l'as dit, sa marge de progression en a agréablement surpris les scouts. Donc, à mon avis, ça va peut-être être juste au choix aux alentours de la centième place. Mais par contre, dans leur schéma, c'est un no-brainer, comme on dit.
Tout à fait, pas d'hésitation possible. N'hésitez pas en tout cas à nous donner votre avis, hein, les fans des Saints, concernant vos priorités, hein, pour cette intersaison et pour cette draft particulièrement. Est-ce que tu avais une bonne pioche particulière entre le 4e et le 7e tour? Parce que du coup, Hunter Long, faut peut-être prendre des... Tu voyais pas spécialement de pioche
J'ai regardé un petit peu leurs différents postes, leur alignement. Il y a rien qui m'a sauté aux yeux. Alors, il y a des perles, il y en aura plein au 4e et 5e tour. Mais J'ai pas de nom à te proposer là.
Bah écoute, moi il y a un joueur que je trouvais pas mal. Pareil, dans la mentalité des Saints, je trouverais que c'est assez intéressant. Je parlais d'un middle linebacker. Je surveillerais de près Ernest Jones de South Carolina, qui a été vraiment un pion essentiel des Gamecocks. Bon, même s'ils ont un petit peu souffert ces derniers mois, mais qui a été vraiment extrêmement précieux sur le run stop. Et je pense que c'est un joueur là encore qui peut être facilement développé, surtout que c'est un joueur qui peut facilement, je pense, descendre au cinquième, voire sixième tour. Donc, je pense que ça peut être d'une part un joueur précieux sur l'équipe spéciale dans un premier temps, et surtout un joueur qui peut grappiller rapidement du temps de jeu sur le poste de linebacker. Même si, voilà, les Saints, comme beaucoup d'équipes, penchent de plus en plus sur de la 42. Mais ouais, ça peut encore une fois être un joueur extrêmement précieux, un nouveau Alex Anzalone à mon sens.
Oui, il leur manque. De toute façon, ils ont besoin de profondeur au poste. Donc, ouais, c'est une option à un moment donné qui sera considérée par le staff, c'est clair.
On a fait le tour, en tout cas, sur les besoins prioritaires des New Orleans Saints. Merci, Alex, d'avoir été en ma compagnie. On se retrouve dès demain pour aborder une autre franchise chère à pas mal de fans français, en l'occurrence les Baltimore Ravens. D'ici là, restez bien connectés sur les antennes de Touchdown Actu et on vous souhaite une très bonne journée. À plus. Ciao.